Mais à l'époque, on proposait quand même aux gens de partir sur des motos qui étaient des répliques de motos des années 50, avec les vitesses à droite, alors qu'ils ont toujours roulé avec des vitesses à gauche, avec des aléas pas possibles. Et on leur disait clairement, il est possible qu'on change la totalité du circuit électrique de la moto à 4000 mètres d'altitude sous la pluie. Est-ce que vous voulez venir ?
Bienvenue dans La Galère, le podcast qui raconte comment les entrepreneurs des plus belles startups se sont débrouillés pendant les tout premiers mois de leur aventure. On parle des galères du début, de la débrouille, des petites astuces pour convaincre les premiers clients et de tous ces détails qui font la différence entre le succès et l'échec d'une startup. Je suis Johan Arias, partner chez Start the Fuck Up, le studio d'innovation qui aide les entrepreneurs et les grands groupes à lancer des startups. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.stfu.pro. Si vous aimez ce que l'on fait, pensez à vous abonner à La Galère pour ne pas rater la sortie du prochain épisode et à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast afin d'aider d'autres personnes à découvrir l'émission. Bonne écoute! Bienvenue dans La Galère, je suis Johan Arias et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Surcher, le fondateur de Vintage Rides. Salut Alexandre!
Salut Johan, merci de me recevoir.
Avec grand plaisir. Tu sais que moi, je connais bien Vintage Rides, que je suis l'aventure depuis un moment. Est-ce que tu peux te présenter et présenter Vintage Rides en 3 minutes pour les gens qui ne te connaissent pas ?
Ouais, bien sûr. Bah, écoute, Alexandre Surcher, donc j'ai fondé Vintage Rides en 2006. Vintage Rides, c'est un tour opérateur moto, donc une agence de voyage à moto. On organise des voyages sur des petites motos qui s'appellent les Royal Enfield. Et on fait ça maintenant dans 18 pays. Voilà, donc on gère tout le voyage moto, donc le guide, l'assistance mécanique, les étapes, etc. Sauf l'avion. Donc pour voyager avec nous, faut prendre son billet d'avion, puis on s'occupe de tout, de l'aéroport à l'aéroport.
Trop bien. J'ai déjà plein de questions, mais on va commencer par le début. Comment ça a commencé ? Comment est-ce que tu te dis, je vais lancer un tour opérateur à moto ?
Ben écoute, donc moi j'étais étudiant à l'époque. J'ai monté la boîte à 20 ans, en 2006. Et j'étais étudiant à l'Institut d'études politiques de Lille. Et on a tous la chance de faire notre troisième année d'études à l'étranger. Et moi, je cherchais à partir le plus loin possible de la France pour être le plus dépaysé possible. J'avais une amie qui étudiait en Inde qui me disait « Ouais, il y a 28 langues officielles, il y a la montagne, il y a la mer, il y a les tropiques. » Ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut connaître en Europe. Je me suis dit « Bah, ça m'a l'air parfait. Ça remplit le cahier des charges. » Donc, j'ai cherché à aller en Inde. J'ai eu la chance d'atterrir à New Delhi sur le campus
et donc là t'as 20 ans en ce moment
là là vrai. J'avais 19 ans, je suis arrivé en Inde à 19 ans et finalement j'étais dépaysé mais pas autant que ce que je cherchais. Et par chance, je me suis retrouvé passager d'un copain dans les montagnes du Rajasthan, dans les petites montagnes du Rajasthan à moto. Et j'ai eu un déclic. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire pendant mon année d'études. Ce que je veux vraiment faire, c'est traverser l'Inde à moto, aller vraiment à la découverte de ce pays de cette manière-là. Donc, j'ai appris à faire de la moto, passé mon permis moto indien et j'ai traversé l'Inde à moto.
Ça ressemble à quoi le permis moto indien ? C'est comme en France ou c'est un peu différent ?
Alors c'est assez différent. Déjà, faut savoir qu'il y a pas mal de gens qui roulent sans permis. Je suis allé à une moto école dans un petit marché au cœur de Delhi. J'ai vu auto école. Bon, j'y suis allé. Concrètement, on va à une espèce de centre. Il y a le responsable de l'auto-école qui nous met des papiers, quoi, des tampons dans tous les sens sur tous les papiers possibles et imaginables. Et puis un beau jour, il me dit OK, c'est bon. Je lui dis c'est-à-dire. Donc il me dit bah t'as une learner's license. J'avais vu aucun instructeur. Donc tu peux mettre un petit L rouge derrière ta moto pendant un mois pour rouler tranquille. Et un mois plus tard, tu dois passer un examen. Et ce jour-là, en fait, je suis arrivé devant l'examen. Moi, j'avais roulé avec ma moto dans Delhi, qui était donc une Royal Enfield qui avait les vitesses à droite, alors que la majorité des motos ont les vitesses à gauche. Et il arrive, puis il me demande une petite 125 avec les vitesses à gauche, puis il me dit « Vas-y, prends la moto et roule, quoi. » Et je lui dis « Non, c'est pas possible. Moi, je roule en Royal Enfield. Donc, moi, j'ai les vitesses à droite. » Et donc, le mec de la moto-école, il allait négocier avec lui et je suis jamais monté sur une moto pour avoir le permis, quoi.
Ok, il t'a même pas fait passer sur ta Royal Enfield.
Voilà. Non, elle était pas là, j'étais pas arrivé avec.
Et du coup, tu as ton permis en poche, tu commences à aller sillonner l'Inde à moto ?
Ouais, exactement. Donc, j'ai mis la moto dans le train, donc jusqu'à la gare de Kanyakumari, qui est à 50 km du point vraiment le plus au sud de l'Inde. Et avec Trivandrum, qui est à 50 km de Kanyakumari. Et je suis descendu jusqu'au point le plus au sud de l'Inde, et puis je suis remonté jusqu'à Bombay. Donc, c'était mon premier grand voyage à moto. Il m'est arrivé, le podcast s'appelle La Galère. Là, je réfléchissais, tu m'as dit, mais quelles sont les galères qui te sont arrivées ? Je me suis dit, je crois que les pires galères que j'ai eues, c'était quand même avant de monter ma boîte. Donc là, je me suis retrouvé, mon piston, donc mon moteur a pété au moins trois fois, parce qu'il faut savoir que en Inde, malheureusement, de nombreux mécanos sont pas très honnêtes. Et en tout cas, à l'époque, il fallait, à New Delhi, il fallait éviter de laisser sa moto sans surveillance. Et donc moi, une fois, j'avais eu un problème de pompe à huile et le mec qui avait réparé la moto m'avait en fait piqué mon moteur. Donc j'avais un vieux moteur. Bon, bref. Donc le moteur avait pété deux, trois fois jusqu'à Bombay. Et là, à Bombay, il répète et je me dis, bon, bah, je vais pas arriver jusqu'à Delhi, quoi. Et donc finalement, je me suis retrouvé, j'avais plus d'argent, machin. Je me suis retrouvé à Bombay, une ville qui est finalement assez chère par rapport aux moyens que j'avais à l'époque. Je me suis retrouvé à dormir à côté de ma moto dans un parking à la frontière d'un bidonville, à mettre la moto dans le train, à voyager en general compartment, c'est des wagons où il y a aucune limite de remplissage. Donc là, je vais te dire, c'est vraiment une expérience. Très très roots, quoi, vraiment très très roots, quoi. J'ai vu des gens se frapper pour rentrer, pour sortir du train, c'était assez marquant. Mais bon, voilà, disons que tout ça faisait partie d'un voyage initiatique. Et bon an, mal an, je suis quand même arrivé à New Delhi. J'ai continué à rouler avec mon premier associé. On s'est dit, écoute, si on, en fin d'année, en fait, à la fin de cette année-là, donc là j'avais 20 ans, je m'étais dit, bon, soit je rentre à Paris à moto. Donc c'est, tu fais Inde, Pakistan, Iran.
Je connais un peu.
Voilà, je sais que tu connais bien. Donc il y a différentes routes. En tout cas, il y avait celle-là en option. Donc le Pakistan déjà était pas conseillé. Donc il fallait plutôt prendre le bateau à Bombay et envoyer la moto vers l'Iran. Soit on traverse à deux avec mon premier associé qui s'appelait Sanjay, quoi, qui s'appelle toujours Sanjay, mais qu'on n'est plus associé depuis longtemps. On traverse l'Himalaya à moto et on lance une agence, quoi. Et on est parti avec on avait 200 euros chacun en poche. On est parti avec des sacs de riz, un réchaud à gaz, une tente, et on s'est dit bon, bah c'est, si on y arrive, on monte l'agence. Et on a eu quelques péripéties, mais ça s'est bien passé. On a vécu un super voyage et on a monté Vintage Rides.
Comment tu passes de on part faire un périple dans l'Himalaya à moto à on monte une agence ?
En fait, c'est vraiment aussi des concours de circonstances. C'est-à-dire, je pense que j'ai toujours aimé les projets. J'étais arrivé en Inde avec, j'avais un projet avec un autre copain. Ce qu'on voulait, c'était monter une forme d'association étudiante qui connecterait en fait les étudiants des pays du Nord qui ont accès à des ressources financières. On voyait beaucoup de jeunes en fait qui montaient qui se faisaient financer des tours du monde concrètement et qui par des boîtes, par des sponsors, etc. Mais on se disait bon, c'est génial, c'est une chance folle, mais mis à part pour eux-mêmes, ça n'a pas une grande valeur sociale. Et moi, j'avais la chance là d'être à JNU en Inde, où je voyais des gens absolument brillants qui venaient de milieux très ruraux, très pauvres, qui auraient une bien meilleure utilisation de cet argent. Et on s'était dit, on va créer un réseau pour créer des équipes en fait d'étudiants qui rassembleraient des étudiants du Nord qui auraient pour principale mission de trouver les financements des projets et des étudiants du Sud qui auraient une bien meilleure idée de comment les utiliser. Et bon, bah voilà, en fait, j'avais ce projet en tête, j'avais avec un autre copain qui lui était parti au Mexique. Donc bon, on va dire qu'un projet a pris la place d'un autre. Et c'était pas tant je vais monter une boîte, c'était juste j'ai vécu la moto finalement a changé ma vie, quoi. Moi, c'était vraiment ce que je cherchais en allant en Inde, ça a marché. Je me suis dit, bah, j'ai envie de partager ça avec un maximum de monde. Comment faire? Bah, faut créer une boîte, quoi. Donc, on est parti chez l'expert comptable, on a créé une boîte. Je savais pas trop ce que je faisais à ce moment-là.
Alors justement, tu dis on est parti chez l'expert comptable, on a créé une boîte. Comment ça se passe? T'as créé ta boîte en Inde?
Ouais, donc
comment tu crées une boîte en Inde?
Bah tu vas chez l'expert comptable et tu crées une boîte comme dans beaucoup de pays du monde.
En tant que français, c'est possible?
Ouais, en tant que français, dans de nombreux secteurs d'activité, tu peux créer ta boîte. Il faut être deux associés minimum pour créer une entreprise en Inde en tant qu'étranger. Pas forcément deux étrangers d'ailleurs. Pas forcément un Indien, je veux dire. Donc on peut être deux étrangers, notamment dans le tourisme. Moi à l'époque, bon, c'était pas un sujet parce que mon premier associé était indien, c'était Sanjay Watal.
Tu l'as rencontré comment ?
Ben c'est à lui que j'ai acheté ma première bécane.
Ok.
Donc en fait, il était passionné de voyage et quand j'avais décidé de faire le tour de l'Inde à moto, je me renseignais un peu autour de moi avec quelle moto partir. Et j'étais tombé sur Sanjay qui était un passionné de Royal Enfield, qui voyageait beaucoup, qui m'a dit non mais attends, il faut que t'achètes une Royal Enfield et je sais laquelle il te faut, c'est la mienne, j'en vends une. Donc voilà comment s'est passée la rencontre.
Une belle rencontre.
Ah, bah, c'est clair, je lui dois beaucoup.
Et donc, vous montez la boîte, vous avez de l'expérience, enfin, vous avez déjà voyagé à moto. Par contre, vous avez encore jamais monté de business et vous avez pas organisé de trip encore.
Ouais.
À part pour vous.
Exactement. Et donc, moi, en plus, j'étais étudiant puisque j'avais 20 ans et j'avais encore mes études à terminer.
Et donc, probablement pas d'argent, pas de financement.
Non. Alors bon, j'avais la chance que mes études soient financées par mes parents. Donc, j'avais pas cette charge. Et ça, déjà, c'était un énorme plus. Par contre, j'avais pas d'argent autre, quoi, pour investir. Donc, j'ai fait en Inde, j'ai fait un peu de traduction. Ça, ça payait pas à top, mais bon, ça payait quand même un peu. Et ça, ça aidait bien. Après, de retour en France, j'ai fait un peu de livraison de repas. Je me suis dit j'ai bossé chez le précurseur de Deliveroo qui s'appelait Commande Gourmande à Lille.
Tu livres en moto?
Ouais, en mobylette. D'ailleurs, la première fois que je suis monté sur la mobylette, je crois que j'ai mis 30 mètres avant de m'éclater la tête par terre. je m'étais un peu trompé de véhicule, mais
j'imagine que ton permis indien n'était pas valable en France.
Ouais, mais j'ai repassé justement le permis français dès que je suis rentré en France. Il était effectivement pas valable et pour de bonnes raisons. Et ouais, donc j'ai repassé le permis moto dès que je suis rentré à Lille et je me suis concentré sur le marketing, en fait la construction d'un business plan, parce que finalement moi j'ai fait les choses à l'envers par rapport à ce qu'il faut faire entre guillemets quand on veut monter une boîte. C'est que j'ai monté une agence mais c'était une coquille vide et donc derrière je savais pas du tout par quel bout prendre le sujet. Et donc là
t'es rentré en France, t'as d'abord créé la boîte,
j'ai créé la boîte
administrativement et puis t'es rentré en France.
Ouais, exactement.
Et ton associé lui est resté en Inde.
Et lui est resté en Inde, donc dans l'idée moi j'allais en gros ramener les clients et lui il allait opérer les voyages. Et donc, j'ai un peu réorienté mes études vers le business. J'ai fait une étude de marché. J'ai sillonné un petit peu la France. J'ai rencontré des motards. On a eu des activités de démarchage, etc. Ce qui a fait un peu évoluer le projet. Voilà, j'ai trouvé les premiers groupes. Et puis l'aventure a démarré, quoi.
Alors, comment tu trouves tes premiers groupes et déjà comment tu cibles qui seront tes clients au début?
Mais ça, c'était en fait pas du tout évident. C'est-à-dire que moi, au tout début, je me disais, je m'attendais à rien, pour être franc, quoi. Je m'attendais à rien. Et à Lille, il y a un gros événement moto à côté dans la région qui s'appelle l'Enduro du Touquet. Et je me suis dit on va aller là-bas avec des copains étudiants, on va distribuer des flyers, sauf qu'on n'avait pas d'argent pour faire des flyers, donc on avait imprimé un flyer horrible à l'université
en
1000 exemplaires. Pff, ça devait dire aller découvrir l'Himalaya en Royal Enfield, tu vois. Et on va aller le distribuer là-bas, il doit y avoir 30 000 personnes, je vais ramener deux groupes, quoi. Et en fait, on est allé là-bas, on a parlé à beaucoup de personnes et on a ramené zéro groupe. Donc je me suis dit, il faudrait peut-être qu'on affine un peu les choses avec une étude de marché. Et donc on a créé une étude de marché pour savoir, en fonction de l'âge, en fonction des revenus, en fonction, est-ce que déjà, potentiellement, les gens sont intéressés pour aller voyager en Royal Enfield en Inde.
Et ça, tu l'amènes comment, cette étude de marché?
On l'a mené en digital, donc là on a vraiment chopé un maximum d'emails sur tous les forums moto possibles et imaginables en ligne. Donc je crois qu'on avait constitué une base d'environ 3000 mails. Et
tu shootes un questionnaire, donc très quantitatif.
On a shooté, quantitatif, mais aussi qualitatif parce qu'on le faisait dans la rue. Donc là j'avais vraiment des copains étudiants avec moi parce que c'était devenu une mission d'entrepreneuriat au sein de mon cursus. Donc j'ai pas mal réussi à aligner mon cursus avec le développement de vintage.
C'est pas mal ça.
Ouais, là-dessus, je m'en suis bien sorti. Je dois avouer que j'ai eu pas mal de chance. Et au final, on a eu des réponses qui étaient hyper intéressantes. Je m'en souviens bien. On avait 62% des motards interrogés qui nous disaient être potentiellement intéressés par un voyage comme ce qu'on proposait en Royal Enfield au bout du monde. Ce qui était quand même une grosse surprise, quoi, une bonne surprise, parce que quand on en parlait, en fait, ça faisait peur. Aujourd'hui, ça nous paraît, l'Inde est devenue, et l'Himalaya est devenue une des grandes destinations moto, disons, pour les gens qui connaissent et qui sont ouverts à autre chose que l'Europe et les États-Unis. Mais à l'époque, on proposait quand même aux gens de partir sur des motos qui étaient des répliques de motos des années 50, avec les vitesses à droite, alors qu'ils ont toujours roulé avec des vitesses à gauche, avec des aléas pas possibles. Et on leur disait clairement, il est possible qu'on change la totalité du circuit électrique de la moto à 4000 mètres d'altitude sous la pluie. Est-ce que vous voulez venir? Bon an, mal an, il y en a qui sont venus et ça a fait des petits.
Il y a quelques fous qui ont répondu oui.
Exactement, exactement.
Depuis tout à l'heure, tu nous parles de Royal Enfield. Pourquoi Royal Enfield? Pourquoi cette marque-là précisément?
Alors écoute, Royal Enfield, en fait, c'est une moto emblématique en Inde. En Inde, ça a pendant longtemps été la plus grosse moto du pays. puisque tu avais que des 125-150 cm3 qui étaient produites dans des quantités colossales, et tu avais la Royal Enfield qui est une moto anglaise d'origine qui a été importée par les Indiens à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et les Indiens assez vite en 1956 ont acheté les droits de production d'un modèle de moto qui s'appelle la Bullet, et les Indiens ont lancé la marque parce qu'à l'époque c'était beaucoup plus protectionniste qu'aujourd'hui, et ils ont lancé la marque Enfield India, et ils ont produit cette Bullet 350 sur le même modèle pendant 50 ans. Et cette moto-là, donc la 350, c'était la plus puissante du pays, c'était la moto de l'armée, c'était la moto de la police, c'était la moto des notables. Donc elle avait vraiment une notoriété. Et les Indiens ont développé une culture de voyage autour de cette moto. Il y avait une vraie communauté de voyageurs autour de cette moto, sachant qu'elle était certes loin des standards européens en termes de fiabilité. Par contre, elle était facile à réparer, puisque bah, c'était une vieille moto, donc on pouvait la réparer. Puis comme elle était distribuée dans tout le pays, on pouvait trouver des pièces. Donc c'était la bonne moto. Et puis, donc en Inde, c'était naturel finalement. C'était la bonne moto naturelle. Elle a un charme fou. C'est une petite moto. Elle reste réparable. Elle passe partout. Elle est surprenante. Donc c'est très adaptable. Et nous, l'idée, c'est quoi ? Moi, je pense que tu l'as bien compris. Moi, je suis pas parti parce que je suis passionné de moto. Je suis parti parce que j'avais envie d'être dépaysé, chercher un challenge, chercher à me remettre en question. Et c'est la moto qui m'a apporté tout ça. Notamment cette moto. Et en fait, cette moto rend les routes parmi les plus aventureuses du monde accessibles au plus grand nombre. Et c'est ça qui est génial. Et c'est pour ça qu'avec le développement de l'agence, on a amené cette moto dans plein d'autres pays.
Il y a un petit côté affectif où tu es tombé amoureux de cette bécane-là aussi.
Ouais, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire.
Donc, toi, tu es rentré en France, tu trouves tes premiers clients dans la rue.
Ouais.
Comment tu fais ton pricing au début? Tu sais à peu près combien ça va te coûter un voyage d'emmener quelqu'un en Inde, les réparations de la moto, les hôtels et tout ça?
Oui, alors savoir combien ça va coûter, ça c'est assez facile. Par contre, décider de quelle est la bonne marge par rapport au financement du développement d'une activité, ça c'était plus compliqué parce que j'en avais aucune idée. Donc je partais vraiment de zéro, j'avais aucune connaissance du marché du travel, donc c'était vraiment instinctif. Par contre, il y avait un élément, c'est qu'on avait un concurrent qui s'appelait et dont le fondateur est devenu mon associé ensuite pendant 10 ans. C'est Alex Lebehan qui avait monté l'agence Shanti Travel et qui avait une branche moto. Et en fait, on était les deux seuls, quoi. Eux, ils étaient lancés un an avant nous sur la moto. On était les deux seuls. Donc moi, finalement, quand j'étais en train de regarder le truc, j'ai vu leur prix. Je me suis dit, bon, ben, faut sans doute pricer à peu près à ce niveau-là. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles on s'est associé par la suite, au bout d'un an, finalement, assez vite, dès 2007. Parce que dans l'étude de marché, on avait déjà réalisé que les motards, pour ce type d'aventure, à 75%, voulaient partir avec une agence spécialisée. Donc il n'y avait pas trop dans le sens de sa branche moto au sein d'un TO généraliste. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que il avait déjà une assise opérationnelle très forte, et donc ça m'a permis de consolider les assises de Vintage Ride sur place. Et lui justement avait une vraie expérience. Ceci étant dit, pour revenir sur la question du pricing, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a fait évoluer nos prix vers le haut. Parce qu'en fait, une petite agence spécialisée a quand même besoin de financer son expertise de manière différente qu'un tour opérateur traditionnel qui s'appuie sur une industrie beaucoup plus structurée. Donc comme tu dis, il faut amortir un département expertise qui s'occupe des motos, travailler sur les traces GPS. Il y a tout un travail qui est un petit peu plus complexe que du voyage plus classique.
Et quand toi, j'imagine que tu découvres donc Shanti Travel qui fait la même chose que ce que tu veux faire, tu le perçois comment? Est-ce que ça te décourage pas de voir qu'il y a déjà un concurrent installé? Comment tu...
Bah, moi, pas du tout. C'est d'autant plus qu'à l'époque, moi, j'ai 20 ans, je suis étudiant, moi, j'ai pas forcément de grosses attentes. Ce que je veux, c'est partager ma passion et point. Donc, comme je te dis, moi, j'avais envie d'avoir un projet. J'ai envie d'aller au bout, je le lance et on y va. Et c'est en fait le contexte, c'est plus qu'ensuite j'ai réalisé avec mon associé Sanjay que finalement ça va être compliqué de développer l'activité avec lui, puisque lui qui était censé gérer l'opérationnel sur place avait un autre job, donc pareil, il s'était lancé un peu par passion sans forcément beaucoup réfléchir à ce que ça allait engager, et surtout il avait pas la même vision des attentes de la clientèle. Et là, je me suis rendu compte que pour avancer, il fallait soit que je change d'associé, soit que j'avance tout seul, parce que ce que moi je peux accepter en tant que jeune étudiant baroudeur, les riders qu'on allait ramener de France n'allaient pas forcément l'accepter en termes de standards d'hébergement, en termes de qualité de service. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai contacté en fait Alex, avec qui finalement on s'est associé pendant pour 10 ans, avec cette idée de lui nous apportait une assise. Ils avaient déjà eu plus de clients que nous, une expertise terrain. Lui, c'est un professionnel du voyage déjà, parce qu'on a, il avait 10 ans de plus que moi, ça faisait 10 ans qu'il était dans le travel, donc il apportait vraiment une grosse expertise locale. Et moi, j'apportais ce concept en fait d'agent spécialisé, un nouveau positionnement prix et un travail en communication et en marketing sur la France, qui nous a permis petit à petit de faire connaître notre concept qui était vraiment novateur à l'époque.
Ça c'est arrivé après combien de temps, combien de voyages t'as organisé d'abord avant de te rapprocher de Chantier Travel?
Alors, non, mon premier client a été opéré par Chantier.
Ok.
Donc en fait, c'est allé assez vite. Tu vois, l'agence, je l'ai montée en septembre 2006 et on s'est associé à l'été 2007.
D'accord.
Donc assez vite, en fait, l'étude de marché, etc., on l'a poussé sur. Moi, je l'ai poussé sur 2006-2007. Et puis, je crois au printemps 2007, on a décidé de s'associer à quelque chose comme ça.
Et à ce moment-là, ton associé indien quitte l'aventure ou il continue?
Ouais, il quitte l'aventure. On est toujours copains, en fait. Si tu veux, ça s'est très bien passé. Je lui dis, écoute, ça colle pas aux attentes du marché. T'as pas non plus forcément le temps pour investir dans le projet. Moi, j'aimerais continuer. Moi, j'ai identifié quelqu'un qui est motivé pour reprendre tes parts. Qu'est-ce que t'en penses? Et il y a pas eu, tu vois, ça s'est passé naturellement. C'était avant tout une histoire de potes.
Ok. Et le premier voyage que vous opérez en Inde, toi tu pars avec ou tu le regardes de loin?
Le tout premier rider, donc booké par Vintage, c'est Alex, mon associé, qui l'a guidé en Himalaya. Ouais. Voilà. Okay. Et moi j'ai dû guider le deuxième ou le troisième sur le Rajasthan. Voilà. Petit à petit, on a réparti les rôles au fur et à mesure.
Et à partir de là, comment ça se développe Vintage Rides?
Suite à ça, ça se développe en tant que agence locale, donc basée en Inde, donc beaucoup avec des stagiaires au départ, qui étaient séduits finalement par cette idée de contribuer au développement d'une petite boîte, de partir faire 6 mois en Inde, un petit peu comme moi je l'avais fait en tant qu'étudiant, mais là dans le cadre d'une agence de voyage à moto, donc ça restait assez fun. Et donc on avait une petite cellule finalement commerciale qui était composé de jeunes stagiaires ou de jeunes étrangers qui avaient un premier contrat avec nous en Inde et qui prenaient finalement les appels entrants qui arrivaient de France pour expliquer ce qu'on faisait et commercialiser nos voyages en Himalaya ou au Rajasthan, qui étaient nos deux grosses destinations sur l'Inde pour le démarrage. Et de l'autre côté, on s'appuyait sur l'assise de Shanti Travel, l'agence de mon associé, qui avait déjà un département réservation, etc. Donc d'une certaine manière, Vintage était un peu incubé au sein de son agence.
Pourquoi ton département commercial, il est en Inde à ce moment-là et pas en France? Tes clients sont français à 100% au début?
En fait, je me suis jamais posé la question de l'avoir en France. La réalité, c'est que ça s'est fait comme ça. C'est la réalité. Je me suis jamais posé la question. Après, il y a quand même quelque chose de très clair, c'est que en Inde, on peut vivre correctement avec très peu de moyens. Et donc, en fait, avec un salaire de stagiaire, tu vois, avec quelques centaines d'euros par mois, je te dis pas que tu vis une grande vie, mais tu peux vivoter, quoi. Et ça a permis à beaucoup de jeunes de contribuer finalement à cette aventure au début. Et rien que moi, ça m'a permis d'avoir le temps de développer l'agence. C'est-à-dire que pendant longtemps, au début, je prenais pas de salaire, évidemment, mais mon premier salaire sur la boîte, c'était 300 euros par mois. Et avec ça, j'étais autonome financièrement. Alors oui, on parle tout dépend de galère, tout dépend ce qu'on appelle une galère, mais à ce prix-là, t'as pas forcément un toilette européen et la climatisation, tu vois. Mais ça te permet en fait d'avoir le temps. Moi, j'ai trouvé beaucoup que l'Inde est un pays c'est quand même un pays d'entrepreneuriat et c'est un pays qui te laisse le temps parce que la vie ne coûte pas cher, tout simplement, quoi.
Et donc toi, t'es retourné en Inde à quel moment?
En fait, moi, j'ai fait beaucoup d'allers-retours au début. C'est-à-dire que j'étais étudiant, puis j'ai réalisé qu'en fait, en tant qu'étudiant, t'as beaucoup de vacances déjà. Donc, quasiment un gros tiers de l'année, t'es en vacances. Et après, t'as des stages. Et donc, en fait, moi, toutes mes périodes de stage, toutes mes périodes de vacances, j'étais en Inde. Et ce que j'ai fait, c'est que pour mon bac plus 5, donc au début, j'étais en bac plus 3 quand j'ai lancé la boîte, bac plus 5, j'ai pivoté vers un truc en alternance à l'IAE de Lille, et j'ai fait mon alternance dans ma boîte. Et du coup, quand j'étais en France sur les cours, j'étais en démarchage, donc les deux tiers de la semaine. Et dès qu'il y avait un stage, j'étais en Inde. Donc au début, c'était pas mal morcelé, tu vois. Et après, c'est 2009, là, je suis reparti 6 mois en Inde à plein temps pour réaccélérer, quoi.
Et donc, si on parle opérationnel, tu as des premiers clients qui arrivent, il faut les amener en voyage, tu as besoin de motos, tu les trouves où, tu les loues, tu les achètes?
Alors là, Chanty, mon associé, avait déjà un parc de motos. Donc lui, il venait d'acheter un parc de motos quand on s'est associé. C'était des Royal Enfield 500 moteur fonte. Donc toi, ça te parle peut-être un peu. Mais voilà, donc vraiment, ça me fait de l'émotion de penser à ces bécanes. Elles étaient vraiment, vraiment attachantes, même si c'était difficile en termes de fiabilité. Mais c'est des bons souvenirs. Et donc voilà, on avait un parc de motos. On avait des contacts avec les hôteliers. D'un point de vue opérationnel, finalement, l'assise de mon associé qui avait déjà fait ça pendant quelques années, donc c'était puis qui faisait ça aussi pour d'autres clients, tu vois, ça faisait que son activité principale, ça faisait qu'on avait, c'était assez facile pour nous d'avoir accès à des hôteliers, de réserver les hôtels, de réserver les prestations, et ça c'était un gros plus. Donc donc cette partie là était vraiment gérée par lui à 100%, et en tout cas par son organisation, c'était vraiment amorti, et c'était du coup facile. Après, il y avait évidemment les challenges permanents qu'on a encore aujourd'hui dans notre métier, c'est d'avoir des bonnes motos en bon état, parce que avoir les motos, c'est une chose, après il faut les entretenir, donc il faut avoir un mécano de qualité, de confiance, être sûr qu'il nous arnaque pas, et ça évidemment on a vu des vertes et des pas mûres, évidemment, et on apprend encore aujourd'hui, hein.
À quel moment tu te dis que tu tiens un truc, que tu as assez de clients et qu'il faut que tu ailles à fond? Et
alors, ça faisait long. Pour moi, c'était clair et net qu'il fallait que j'avance avec ça, parce que c'est quelque chose que j'ai. Quoi, en tout cas, tant que ça tournait, je voulais que ça continue. Mais c'est vrai que pour moi, pendant tout un temps, c'était. C'est dur de dire activité secondaire, parce que j'étais quand même très impliqué malgré le fait que je sois étudiant. Mais j'avais toujours quand même quelque chose en parallèle, tu vois. Et même sur l'année 2000, donc fin 2009, j'y suis allé 6 mois, et on avait placé un manager à la tête de la boîte. C'était un jeune, hein, qui avait commencé avec nous, stagiaire, tu vois. Puis bon, on l'avait mis manager puis directeur pendant une année. Et moi, j'étais parti faire un an dans un grand groupe en République Tchèque chez Valeo, parce que je voulais justement m'étoffer un peu, quoi. J'avais quand même le sentiment de me lancer totalement sans avoir rien appris nulle part, quoi. Donc à un moment, je me dis, ça vaut peut-être le coup d'apprendre un peu, ne serait-ce que de voir comment marche une plus grosse boîte. Et ça l'a pas fait avec ce mec-là. Le step de directeur n'a pas fonctionné pour lui. Et donc assez vite, avec mon associé, au bout de 3 mois, on a repris chacun des sujets. Donc là, je me retrouvais encore à gérer pas mal de trucs à distance. Et quand on s'est dit qu'on allait devoir se séparer de lui, là, j'ai pris la décision vraiment d'y aller à fond. Donc c'était mi-2010, quoi. À peu près, ou peut-être fin 2010, un truc comme ça. Je crois que je suis rentré en Inde à fond en 2011.
Avec le recul, t'as appris des choses chez Valeo en République Tchèque. C'était le bon choix?
Ouais, franchement, ouais. Je pense qu'on avait fait confiance à la mauvaise personne, donc ça, c'était pas le bon choix. Mais c'est aussi comme ça qu'on apprend. Et puis, on était, comme moi, j'étais très jeune. Mon associé était aussi un jeune entrepreneur. Donc, je pense que il y a forcément toujours des erreurs qu'on fait, quoi. Voilà. Et peut-être des messages qu'on n'a pas passé comme il fallait, ou en tout cas, ça l'a pas fait. Et ouais, moi, franchement, je pense que j'ai vachement appris chez Valeo. J'étais dans une cellule achat, dans une division un peu en crise, dans une usine fin fond d'un village, je me suis éclaté, c'était un peu un job de cow-boy. Franchement, j'ai appris plein de trucs, j'aime bien cette boîte. Après, voilà, j'étais aussi content de retrouver la mienne, et là, à partir de 2011, ouais, il était temps d'y aller vraiment à fond, quoi.
Ok, trop bien. Donc 2011, la boîte, elle est rentable depuis le début. Toi, tu ne te verses pas de salaire, mais la boîte
a toujours été rentable. Donc d'ici 2011, tu vois, le seul salaire que je me suis versé, c'était 6 mois après mes études, où j'étais retourné 6 mois pour voir un peu, puis où finalement on avait placé un directeur, et c'était 300 balles par mois, quoi. Donc sinon, jusque là, je m'étais jamais payé jusqu'en 2011, hein, mon associé non plus. Mais la boîte a toujours été rentable puisqu'elle a été autofinancée. Je te dis, on l'a financé avec des livraisons de pizza, de la traduction, puis après on vivait chichement, et on n'avait pas pour but de taper dans les caisses, donc on s'est développé comme ça, de manière simple, modeste, petit à petit, étape par étape.
Il y a un moment où tu dois quand même te dire que si tu veux que la boîte soit pérenne, il faut que tu arrives à en vivre.
Ouais, bah 2011, en fait, il y avait de quoi me payer un petit salaire, donc c'était pas, je pense de tête, ça devait être un lac ou un lac 2 peut-être entre les deux, ce qui doit faire à peu près 1 500 balles, tu vois. Donc voilà, mais avec 1 500 balles en Inde, moi avant j'avais 300, donc si tu veux, je me dis, je suis roi du pétrole, quoi. Et voilà, donc moi ça me suffisait et j'étais heureux avec ce salaire et là je suis parti à fond. Et la boîte pouvait me le payer, donc il n'y avait pas de souci.
Donc là on est en 2011 à peu près.
Ouais, 2011, ouais.
2011, vous faites des voyages en Inde. Tu nous as cité quoi, l'Himalaya, le Rajasthan.
Ouais, je pense 2011, on doit faire Himalaya, Rajasthan, un peu les piémonts himalayens dans une région qui s'appelle l'Uttarakhand. Ça, c'est un voyage que j'avais repéré. C'était des bons souvenirs de repérage aussi. Ça, c'était très, très sympa. Et on avait lancé l'Inde du Sud aussi déjà. Et on avait fait nos premiers pas au Népal.
C'est toi qui fais les repérages à ce moment-là ?
Pas forcément, non, pas forcément. Moi, j'ai toujours beaucoup délégué, donc il y a des repérages que j'ai faits, mais pas tous. Et voilà, vu que j'étais aussi, tu vois, étudiant-entrepreneur à 12 000 bornes de ma boîte, quand même à 50% du temps, on a toujours donné beaucoup de responsabilités aux jeunes. C'est quelque chose qui fait vraiment partie de la culture de la boîte. Et c'est quelque chose de, bah, qui a souvent bien marché. Parce que les collègues que j'avais étaient toujours hyper contents de faire les repérages, etc. Donc on avait des guides, on avait des équipes bureaux et on se répartissait un peu la partie fun du métier.
Ça se passe comment un repérage en Inde ?
On a pas mal évolué hein, depuis les débuts. Alors pour par exemple mon repérage en Uttarakhand là qui était un des premiers finalement, peut-être notre troisième desti. Bah à l'époque il y avait pas, il commençait à avoir les téléphones portables, tu vois, mais c'était pas du tout développé comme aujourd'hui. Enfin, les iPhones et tout, tu vois ce que je veux dire, c'était pas là.
2008 je crois l'iPhone.
Ouais, c'est à peu près ça. Ouais, donc tu vois là en Uttarakhand, moi le repérage c'était 2007. Je l'avais fait, je me souviens, à la mauvaise saison, parce que pour pouvoir le lancer pour la bonne saison, il fallait que j'y aille. Donc c'était la fin de la mousson, il y avait plein de routes barrées, il n'y avait pas les images satellites, il n'y avait pas Google Maps, je pense bien. Et donc en fait, j'allais dans la région, j'avais une idée de là où je voulais aller parce que j'avais regardé sur des cartes un peu génériques. Sauf que les cartes génériques que tu achètes à l'étranger, qui étaient assez fiables, n'avaient pas du tout la totalité des axes locaux, là où nous, on voulait organiser des voyages. Donc ma technique, c'était d'aller à chaque fois que je passais dans un village, c'était d'essayer d'acheter toutes les cartes possibles de la région, et après de confronter les différentes cartes entre elles et de demander aux locaux ce qu'ils pensaient de la route, quoi. Et ça, c'est assez magique parce qu'en Inde, t'avais des mecs qui te disaient ouais, c'est juste à côté, puis d'autres mecs qui disaient ouais, c'est à 3 jours, quoi. Et c'est là que tu vois qu'en fait, des ouvriers agricoles ou des gens, des villageois, ils ont absolument pas la connaissance de ce qu'il peut y avoir à 200 bornes de chez eux, quoi. Et donc, en tout cas, pas la même notion de la distance, sauf que les Indiens veulent toujours te donner une réponse positive parce qu'ils veulent pas être impolis, donc ils vont toujours te dire un truc. Et donc le jeu, c'était de recroiser énormément d'infos et puis après de partir. Et ça, c'était des sensations assez magiques, quoi. C'est si tu pars, en fait tu sais pas trop où tu vas, même si t'en as une certaine idée, tu sais pas si ça va fonctionner, tu sais pas si la route va être bonne, tu sais pas si tu vas trouver un hôtel à l'étape. Donc voilà, ça c'était comment on faisait au tout début et ça a beaucoup changé.
Tu fais un métier de cartographe à l'époque.
Ouais, presque, quoi, presque.
T'avais peut-être les cartes les plus précises d'Inde.
Ouais, en tout cas sur le tracé, ouais. On était bons. Mais tu vois, à l'époque, on guidait sans GPS, quoi. Je veux dire, les tout premiers tours, ils étaient guidés sans GPS, quoi. Aujourd'hui, ça me paraît fou de me dire on n'avait pas les traces, quoi.
Trop bien. Et tu nous parlais un peu de l'expérience de tes clients et des galères que tu peux rencontrer quand tu roules en Royal Enfield en Inde. Pour tes clients, ça se passe comment ? Comment tu leur garantis d'avoir une super expérience et comment tu leur évites les galères ou comment tu leur fais vivre les galères ?
Ouais, alors nous, on n'évite pas les galères. Voilà, quelquefois, on ne peut pas les éviter. On fait le maximum pour les limiter en amont. Donc ça, c'est la première étape, c'est qu'on planifie nos voyages. Donc là, je te racontais comment on faisait des repérages à l'époque. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus fouillé. On travaille énormément en amont. Moi, je considère qu'aujourd'hui, un bon repérage, un excellent repérage ne doit que valider les choix qui sont déjà faits. Donc sur images satellites, avec tout ce qu'on peut trouver sur la toile, on travaille énormément en amont pour savoir où on va avant d'y aller. Donc ça, c'est le premier truc. Après, on valide toutes nos hypothèse de travail sur le terrain avec un repérage qui est fouillé. Donc ça limite déjà énormément les potentiels aléas. Après, on travaille quand même sur des motos qui sont des motos fragiles, même si les Royal Enfield sont beaucoup plus fiables qu'à une époque. C'est pas les motos les plus robustes non plus du marché. Ça reste des petites motos qui sont accessibles, qui nous permettent de passer partout, mais qui ont des petites fragilités. Donc il peut y avoir des pépins mécaniques. Surtout, on les amène dans des pays où la culture mécanique et la culture de la royale n'est pas forcément bien développée. C'est-à-dire aujourd'hui, nous on a un tour au Rwanda. C'est un tour d'ailleurs qui cartonne, les gens adorent. Mais on s'imagine bien que un mécano rwandais n'a pas forcément le même niveau en Royal Enfield déjà qu'un mécano indien ou qu'un mécanicien français. Donc, par définition, le fait d'amener les gens dans des endroits aussi reculés, avec des motos particulières, engendre des imprévus. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est qu'on traverse l'Himalaya, on traverse la Mongolie. En Himalaya, on a quand même la route la plus haute du monde à moto, on traverse les Andes. Donc forcément, dans ce genre d'endroit, tu ne peux pas garantir à tes riders qu'il n'y aura pas d'imprévus. Donc nous, ce qu'on dit, c'est venez parce que vous êtes ouvert à des imprévus. Sinon, c'est peut-être un autre type de voyage que vous voulez vivre. Par contre, c'est nous qui allons les gérer, quoi. Et les gérer, bah, ça part bah, de voilà, on a une assistance mécanique, donc c'est une galère. On va en fait 90% du temps, on va réparer la galère directement sur place et reprendre l'aventure, reprendre le voyage. Ça peut être des aléas météo très forts, quoi. Tu vois, en Himalaya, ça nous est déjà arrivé. En haut Himalaya, en plus, t'as pas de téléphone, ni de téléphone satellite. Donc, ça peut être compliqué. Il y avait des gros glissements de terrain en 2010, et nous, on avait deux tours sur la route en même temps. Et nos deux guides étaient bloqués, et là, bah là, ouais, compliqué de gérer la situation, quoi. Et bah là, pour te donner une idée, on essaie de savoir ce qui se passe, c'est la première étape, quoi, de savoir où sont nos groupes, comment ça se passe. Donc, tu échanges énormément. En fait, il y a une espèce de téléphone arabe qui se met en place sur la route. Donc, tu échanges avec les gens qui redescendent de la route d'un côté, qui descendent de la route de l'autre côté. Essayer de savoir et d'identifier qui sont les dernières personnes à avoir croisé tes groupes. Donc là, on a identifié ça. Puis en fait, nos deux groupes ont pu redescendre et ont continué l'aventure par le sud de l'Himalaya. Et en fait, les riders l'ont compris et l'ont accepté. C'est-à-dire qu'à un moment, nous, on vend un voyage. On va dans des endroits... alors, on a des voyages plus ou moins, aventuriers. Mais voilà, ça fait partie du voyage, quoi. Quand on traverse l'Himalaya, on doit s'attendre à avoir des galères.
Ils sont prévenus et viennent aussi pour ça.
Mais alors après, t'as un voyage en Himalaya qui s'appelle la Transhimalayenne. Là, oui, clairement, bon, ben, c'est la mousson sur le reste de l'Inde. Donc forcément, tu risques d'avoir des galères. Parce que c'est les premiers hauts sommets de l'Himalaya qui bloquent les nuages de la mousson. Bon, bah, quelquefois, il y en a qui passent. Quand il pleut, il peut y avoir des glissements de terrain. Donc voilà, ça fait partie du jeu. Après, il y a un autre voyage en Himalaya, Oasis et sommet du bout du monde, qui est déjà un petit peu plus enfoncé dans l'Himalaya. C'est déjà plus aride. Il y a déjà moins de risques. Puis il y a des voyages au Rajasthan, on a déjà beaucoup moins d'imprévus. Donc voilà. Mais dans tous les cas, ça reste du voyage-aventure.
Ouais, et puis c'est différent quand tu pars toi et que tu as des galères ou quand tu as la responsabilité d'un groupe, j'imagine.
Absolument.
C'est quoi le pire truc qui t'est arrivé sur un voyage que tu as dû gérer?
Moi, en tant que guide, j'ai jamais eu de grosses galères. Ouais, moi, c'était plus les galères que j'ai pu avoir à titre perso. Quoi, je te disais sur ma première année là de baroud à moto avant de monter l'agence. Non, mais on a eu des trucs genre on a dû changer la totalité du circuit électrique de la moto à 4000 mètres sous la pluie. Bon, c'est en fait moi ça me paraît même pas être une grosse galère, mais je pense que pour beaucoup de gens c'est
devenu normal.
C'est déjà quand même pas tout à fait commun. Non, mais tu vois, là où je te parlais, qu'on avait deux groupes en Himalaya, ça pour moi c'était une vraie galère parce que j'étais pas justement avec les guides sur le terrain, mais il fallait planifier tout le reste. Une autre fois sur une zone très reculée qui s'appelle le Kinor Spiti, il y a eu des grosses pluies et la route était bloquée devant et derrière le groupe. Et là, ça a été très difficile parce que le groupe paniquait un peu, quoi. Enfin, paniquait même beaucoup. Et on essayait de tout faire pour qu'ils aient accès à un hélicoptère de l'armée. Et c'est extrêmement compliqué parce que les places étaient comptées, il y avait les locaux, il y avait notre groupe, il y avait, tu vois. Puis l'information circulait mal, donc il y avait une forme de psychose qui se mettait en place. Et nous, là, bah, tu vois, on avait envoyé l'hélico, on savait jamais où est-ce qu'il allait se poser, déjà s'ils allaient y aller, si jamais ils allaient réussir à récupérer les groupes. Donc on avait envoyé un guide, un point d'atterrissage possible, un autre guide, un autre point d'atterrissage pour essayer de, voilà, quel que soit le moment où on chope le groupe, le récupérer le plus vite possible. Et puis, on essaie d'être en communication téléphonique le plus régulièrement possible avec le guide. Mais c'est compliqué. Ça, c'est des situations qui sont compliquées à gérer. Bon, après, honnêtement, ça arrive pas tous les jours non plus. Et des situations, il y en a plein. En Mongolie, une saison, il y avait trop de pluie. On pouvait pas passer la rivière à moto. On a mis les motos dans un canoë. Une fois, on a dû faire demi-tour. Une fois, des aléas, il y en a plein. Ça fait partie de notre job.
C'est là que t'as les meilleurs souvenirs après.
Mais exactement. C'est sur le moment, ça peut être intense, mais ça fait aussi des super souvenirs de voyage.
Donc là, on est 2011-2012, la boîte tourne en Inde, elle est rentable, tu commences à réussir à te verser un salaire un peu plus correct. C'est quoi les perspectives de développement?
Ben là, voilà, donc là, la grosse question qu'on se pose, c'est ok, on a envie de développer d'autres pays, on a envie de continuer l'aventure, on sent qu'il y a un vrai concept, les riders nous demandent plus. La question, c'est comment est-ce qu'on y va Et où est-ce qu'on va? Et en fait, et avec quelle moto? Et mon associé et moi, on aime beaucoup l'Inde. On est attiré par les pays un peu qui ont une identité très forte. Et du coup, on avait envie d'aller en Mongolie. Et on se dit on va lancer la Mongolie quoi. Et donc là, on s'embarque dans une nouvelle galère.
De façon arbitraire. Vous avez pas d'études de marché ou...
Ah non, il y a pas d'études de marché. De toute façon, il y a pas trop de tourisme en Mongolie. Donc si tu veux. C'est juste, on s'est dit, ça va être incroyablement cool de rouler dans ces steppes à moto, quoi. Mais bon, le business du touring moto en Mongolie, avant, ça devait être à peu près aussi anecdotique que celui en Inde quand on s'est lancé.
Toi, tu connaissais la Mongolie à ce moment-là? T'étais déjà allé?
Jamais allé. Mais raison de plus pour y aller monter une boîte, tu vois. Ça faisait partie du jeu.
Et alors, est-ce que toi, t'as un plan à ce moment-là? T'as une vision pour où t'as envie d'amener la boîte? Ou est-ce que tu te dis, la Mongolie, ça me fait kiffer, allez, on ouvre la Mongolie et puis on verra après?
Ouais, moi je pense que j'ai assez vite développé une idée comme quoi, en fait, réaliser que la boîte repose sur des valeurs qui sont assez fortes, un concept fort, et que ça peut s'exporter dans de nombreux pays. Après, par quel pays commencer? Voilà, ça c'était en partie arbitraire. Voilà, moi je sais qu'on avait envie de Mongolie, mon associé avait aussi envie d'y aller, on s'est dit bah vas-y, et c'est lui qui a fait le premier repérage là-bas, et je crois que c'était en 2012, et il est revenu avec plein d'infos, il m'a dit c'est incroyable, faut qu'on y aille quoi.
Et donc là c'est encore une autre logistique parce que t'as pas de Royal Enfield sur place j'imagine, il y a personne qui sait les réparer dans le pays.
Exactement, et c'est là où on travaillait vraiment différemment à l'époque de la manière dont on travaille aujourd'hui, et avec du recul, je dirais ouais, on a vraiment franchi quand même quelques paliers. Pour nous, à l'époque, développer une Desti, ça voulait dire monter une boîte, ce qui aujourd'hui me semble aberrant. Mais donc on s'est dit, de toute façon, il n'y a pas de Royal Enfield, il faut bien les acheter, donc il faut une boîte. À l'époque, pour aller en Mongolie, pour créer une boîte en tant qu'étranger en Mongolie, il fallait 100 000 $ de capital. D'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, c'est 250 000 $, donc c'est pas un pays dans lequel il est facile de rentrer. Et bon an, mal an, on y a réussi, quoi. On a monté une boîte en Mongolie, on a amené d'abord 10 motos, après 20 motos. C'est une Desti qui est devenue une de nos grosses destinations. Et là-bas, évidemment, mais des galères, on en a eu, mais t'imagines pas, quoi. Comment tu penses pouvoir gérer une équipe de mécaniciens mongols qui ne parlent ni anglais, ni français, ni aucune langue que tu connais, en Mongolie, quoi.
Tu recrutes tes mécaniciens sur place, tu les fais pas venir pour un voyage?
Non, nos mécaniciens, en général, sont locaux. Et sinon, ça fait exploser les coûts du voyage. Et ça, en fait, c'était d'une complexité insensée, quoi. Et donc, ça a été très difficile. On a un beau jour, un matin, on a notre tour qui est censé partir. Et notre mécanicien, en plus, staff, tu vois, qu'on a payé toute l'année, qui bosse 4 mois dans l'année, on s'aperçoit qu'il a pas réparé, quoi, qu'il a pas bouclé la réparation des motos, et il est bourré le matin du départ. Tu fais quoi? Eh ben, on part sans le mécano. Et notre guide est quand même assez bon mécanicien. Notre guide de l'époque, là, c'était Baptiste, un mec super, hyper implanté en Mongolie, qui parle mongol, qui dégourdi en mécanique. Et les Mongols en général sont dégourdis en mécanique. Donc on a pris un chauffeur, parce qu'on a toujours un chauffeur d'assistance qui était aussi bon en mécanique pour limiter les risques. Et en fait, on a recruté un mécano à la deuxième étape du voyage. Il est allé dans un petit garage, il dit « Est-ce que tu as envie de bosser avec nous ?» Le mec a dit oui, et ça a été notre mécano pendant 2 ans, quoi.
Trop bien. Tu dois le former, un mécano mongol, à la Royal Enfield, où il arrive à peu près à se débrouiller
Ça, c'est la grosse complexité. Pour être franc, c'est encore une des complexités de notre métier. C'est-à-dire que c'est pas facile de... En France, un mécanicien, il a un CAP mécanique, on parle le même langage, il comprend le fonctionnement d'un moteur. Dans pas mal de pays comme ça, ils sont pas forcément allés à l'école, ils ont pas forcément le même niveau de connaissances de fond, tu vois, sur le fond des choses. Donc, beaucoup de mécanos reproduisent des gestes qu'ils ont vus sans forcément comprendre la globalité du fonctionnement du moteur et de la machine. Donc c'est assez difficile en fait de savoir quel est le niveau réel d'un mécanicien quand tu le recrutes au départ. Et là, en l'occurrence, c'était un bon mécano, mais il avait aussi besoin d'être accompagné évidemment par Baptiste, notre guide, sur les spécificités de la Royal. Donc on a mis un peu de temps, mais ça s'est bien passé. C'était une bonne... C'est un bon recrutement.
Et donc, chaque fois que tu ouvres une nouvelle destination, c'est nouveau repérage, achat de moto, mécano à recruter. Ça a changé, ça, aujourd'hui? C'est toujours comme ça? Comment vous avez évolué là-dessus?
Alors, aujourd'hui, on a complètement évolué, puisque la boîte donc a été indienne. Naturellement, effectivement, on allait monter une boîte, recruter, acheter nos motos, tout seul, etc. Aujourd'hui, la boîte est lyonnaise. Toute l'équipe est à Lyon.
On va y venir.
À New Delhi, aujourd'hui, on a une équipe fidèle, mais une équipe de freelance. Et en fait, le constat que j'ai fait au fur et à mesure des années, c'est que la propriété, donc des machines et le fait d'avoir une boîte, n'engendrait pas forcément le contrôle et donc la qualité du service. Et à l'inverse, l'absence de propriété n'empêche en rien le contrôle. Et donc aujourd'hui, notre objectif, c'est plus de trouver des partenaires locaux qui sont intéressés par l'opportunité d'affaires à travailler avec Vintage Rides, qui vont soit investir eux-mêmes dans les machines, soit co-investir à nos côtés. On peut éventuellement créer une joint venture. Par exemple, là, aujourd'hui, on est associé au Pérou, on est associé au Maroc, on est associé en Argentine. Mais on va éviter d'être les seuls propriétaires. On veut vraiment s'associer à un entrepreneur local qui est motivé par le projet, qui a des ancrages locaux, qui parle la langue du pays, qui va nous faciliter les choses. Donc, la logique est devenue très différente. Par contre, on a beaucoup investi sur ce qu'on appelle en interne l'expertise pour accompagner nos partenaires et mettre en place des process entre guillemets de contrôle qualité, après des process aussi terre à terre par rapport à la réalité de notre métier, la réalité des ressources que eux ont sur place, ce qui est le cœur de la complexité de notre job, c'est ça, c'est qu'on fait ce métier dans des pays très différents, avec des niveaux de formation et de disponibilité des pièces, disponibilité de la main d'œuvre qui est différent de ce qu'on peut connaître en Europe, évidemment.
Tu mets combien de temps en 2012 pour ouvrir la Mongolie et aujourd'hui, tu mets combien de temps pour la nouvelle destination ?
En Mongolie, je pense qu'on a mis au moins, je dirais, deux ans. Parce que je pense qu'Alex a fait son premier repérage en 2012, qu'on allait monter la boîte en 2013. Moi, j'ai fait mon repérage parce que j'ai fait aussi le repérage en Mongolie. En fait, c'est vrai qu'il y avait deux repérages. Donc, j'ai fait mon repérage en 2013 et je crois que le premier tour, on l'a opéré en 2014, si je me trompe pas. Ouais, à un an près, ou alors 2011, 2012, 2013, mais à un an près, c'était ça. On a fait en deux années de suite chacun un repérage pour aller monter la structure.
Et aujourd'hui, pour ouvrir une nouvelle destination, ça te prend combien de temps ? Ou t'en ouvres combien par an ?
Bah aujourd'hui, on en ouvre deux à trois par an.
Ok.
On va beaucoup plus vite.
Beaucoup plus efficace.
Ouais, ça n'a rien à voir.
Ça marche. Et après la Mongolie, c'est quoi les destinations suivantes ?
Après, on a ouvert la Thaïlande. Alors entre-temps, on avait ouvert le Bhoutan, je crois. Bhoutan, Sri Lanka. Et puis après, Thaïlande.
Ok. Et en termes de clients, c'est des clients 100% français. Vous commencez à aller chercher des clients plus internationaux. Ça se passe comment, le développement ?
Ouais, donc en fait, jusqu'en... c'est dur de donner des dates précises. Tu vois, j'irais jusqu'à peu près 2016-2017. On avait quand même principalement des riders francophones. Peut-être 5% d'internationaux, tu vois, mais c'était quand même vraiment marginal. Et en 2017 ou 18, on se décide de vraiment accélérer sur le marché britannique notamment. Et là, j'avais cherché à racheter une boîte là-bas. Notamment, moi, je suis beaucoup de quoi j'aime bien en fait les j'aime bien les créateurs de boîtes, quoi, les gens qui ont lancé un concept. Et en fait, sur notre petit segment, il y avait donc nous, on était un peu pionniers sur le marché français, Et il y avait une boîte qui s'appelle Blazing Trails qui était pionnier sur le marché anglais et une autre boîte qui était pionnier sur le marché allemand. Et donc je me suis dit, je vais contacter la boîte anglaise, voir s'ils ont envie qu'on les rachète, quoi. Et ça n'a pas marché parce que pour des questions de divergence entre les deux associés, ça c'était pas possible. Mais du coup, j'ai bossé pendant un an avec la réelle fondatrice qui a bossé pour Vintage pendant un an pour nous aider à développer le marché anglais. Et du coup, en 2019, on était à 30% de riders internationaux sur nos voyages. Après, le Covid est arrivé, ça a un petit peu rabattu les cartes, quoi.
Alors, 2020, Covid, il se passe quoi pour une agence de voyage qui fait que des voyages à l'étranger ?
À 2020, Covid, honnêtement, c'est une énorme claque, sachant que nous, c'est fin 2019... On décide de rapatrier la boîte à Lyon, ce qui est une énorme décision pour nous.
Donc ça, avant le Covid, vous aviez décidé de rapatrier les locaux
ouais,
à Lyon.
Ouais, ouais. Donc avant
quoi ?
6 mois avant le Covid, moi, ça faisait un an et demi que j'étais convaincu que l'avenir de la boîte n'était plus en Inde, alors que j'ai été au contraire fervent défenseur de l'Inde pendant des années. Je voulais que le siège de la boîte soit en Inde. Je suis très attaché à ce pays et je considère que c'est le pays qui a fait de moi l'entrepreneur finalement. C'est là-bas que j'ai monté mon truc à 20 ans. Et donc je voulais qu'on paye nos impôts en Inde, etc. Mais en fait, ça devenait très dur pour deux raisons. Déjà, une raison administrative. C'est-à-dire que quand tu scales, il y a toujours des lois différentes en Inde. Plus tu grossis, plus tu vois qu'il y a des lois qui sont parfois différentes en fonction des États, qui sont parfois contradictoires. Et nous, en tant qu'étrangers, on est quand même potentiellement une cible des administrations fiscales, etc. Donc, je me suis dit, waouh, là, ça va être compliqué vraiment de scaler le business dans ce contexte, en fait, macro et quoi, économique. Donc, ça, c'était la première raison. Deuxième raison, c'est que le siège de la boîte est à New Delhi. Et New Delhi, moi, c'est une ville que j'adore. J'y ai passé, du coup, quasiment 10 ans, tu vois, mis bout à bout. Mais c'est une ville qui est pas facile aussi pour les étrangers, pour s'y habituer, parce que c'est très pollué, c'est très intense. Donc, à un moment, les gens se fatiguent et finissent par partir, même si on a eu des super histoires avec plein de collaborateurs géniaux qui ont aidé à développer l'activité jusque là où on est aujourd'hui. Et je me suis dit, non, on a besoin de plus de stabilité. Donc 2018, on commence à autoriser du télétravail, mais à l'international. Donc on avait une équipe en 2019, on avait des gens au Pérou, on avait des gens en Thaïlande, on avait des gens, tu vois, pas mal de pays différents. Et je voyais qu'en fait, de mon point de vue, gérer une boîte, parce que 2017 à 2018, je pense qu'on fait 40 ou 50% de croissance en un an. Et en fait, gérer une boîte en forte croissance, avec des gens sur des fuseaux horaires différents, dans une petite boîte, ça crée beaucoup de malentendus, la conduite du changement était vraiment difficile. Et donc je me suis dit, bon, bah, il y a quand même des tours opérateurs qui fonctionnent en France, qui opèrent dans le monde entier. Essayons de s'intéresser à leur mode de fonctionnement. Essayons de voir si on peut faire rentrer Vintage, qui n'est pas du tout dans ce moule, ben dans ce moule-là, et pour créer quelque chose de plus stable et permettre de passer l'étape d'après en termes de développement. Donc c'est pour ça que j'ai pris cette décision.
Donc tu décides de rentrer en France, à Lyon. Pourquoi Lyon ?
Ben, Lyon parce que moi je croyais pas à Paris. Dans le sens où Paris c'est quand même une ville, déjà c'est très cher, donc je pense que ça avait plus de sens de partir dans une ville de province, sachant que le travel c'est une industrie de passionnés, quoi. C'est pas, on faut pas bosser dans le voyage pour faire fortune, c'est clair. Et donc on a des, voilà, notre grille de salaire c'est ceux du secteur du voyage, et c'est fait pas partie des grilles les plus élevées, quoi. On est bien loin des grilles de la tech ou du conseil.
Ouais, les marges sont petites, donc tu peux pas rivaliser avec les salaires de la
exactement,
tech.
On peut pas rivaliser, donc c'est un métier de passionné. Donc déjà, bah, pour que les gens aient un meilleur niveau de vie, je pense que c'était important d'être dans une ville de province. Et ensuite, bah, Lyon, c'est 2 heures de Paris. Donc moi, ça me permet quand même d'y aller, sachant que moi, je vis à Paris pour des raisons familiales. Et Lyon, c'est surtout une super base de départ pour l'aventure. Donc de Lyon, tu vas dans le Jura, tu vas dans le Massif Central, tu vas dans les Alpes. C'est incroyable. Tu vas dans les Ardennes, quoi. C'est vraiment top, quoi. Et du coup, d'ailleurs, aujourd'hui à Lyon, on a une équipe qui est hyper branchée aventure. Il y en a qui vont camper le week-end, qui prennent la bécane, qui vont rouler, on est aux portes du Beaujolais, c'est magnifique. Donc ça permet aussi d'être aligné avec ce en quoi on croit profondément, quoi. C'est partir, ouais, à l'aventure.
De Paris, c'est un peu plus galère. Tu mets 5 heures de route à aller dans le Jura ou dans les Vosges.
On est d'accord. Lyon, ouais. De Paris, à part les Ardennes et la Normandie, c'est compliqué. À 1h30, il n'y a pas grand chose, quoi.
Et donc tu décides de ramener le siège à Lyon. L'équipe qui était en Inde te suit ou tu reformes une nouvelle équipe? Ça se passe comment?
Alors ça, c'était vraiment un gros chantier, et j'ai eu la chance d'être accompagné par un entrepreneur génial qui s'appelle Gérard Guerrier, qui était le directeur général d'Alibert, qui est une grosse agence de trek pendant 10 ans, quoi, qui était associé et directeur général chez Alibert pendant 10 ans, qui avait doublé la boîte en taille, et donc il a vraiment toute l'expertise du tour operating aventure en France. Et donc en fait, il m'a aidé à restructurer, il nous a aidé, parce que il est venu 2 fois 3 jours en Inde. Et on a, avec lui, créé le modèle organisationnel lyonnais. Donc le COMEX de Vintage, donc c'était, tu vois, la responsable communication, le responsable vente, responsable opérationnel. On a créé le business model avec les grilles de salaire, avec les scopes de responsabilité de l'équipe de demain à Lyon. Et ensuite, on a dit voilà, donc c'est là qu'on va, maintenant qui veut venir? Et en fait, il y avait quand même, il y a eu 4-5 personnes qui se sont dit, bah voilà, j'ai bien envie d'accompagner la boîte, au moins sur un moment, pour cette transition.
Vous étiez combien à ce moment-là en Inde ?
On était quasiment 40.
Ok.
Et l'idée, c'était de... Alors, l'idée, c'était de rester une douzaine en Inde, parce qu'à l'époque, on voulait garder quand même un bureau opérationnel en Inde juste pour la partie exécution moto. Un bureau d'expertise, comme on peut avoir des participations, tu vois, au Maroc ou au Pérou. Dire voilà, ça, l'Inde, ça restera une file à 100% sur la partie moto, expertise, mécanique. Et après, à Lyon, on devait être une quinzaine, quoi. Et donc, de gagner en productivité. De toute façon, le pari de venir en France imposait un gain de productivité. Mais pour donner une idée, à la fin, en Inde, on avait 7 comptables. Donc,
7 comptables pour une boîte de 40 personnes.
Ouais, 7 comptables pour une boîte de 40 personnes. Et tu vois, en 2019, on fait 4,8 millions de ventes. Donc bon, tu te dis, il y a un truc qui cloche quand même. tu vois pourquoi je me disais qu'à un moment, il fallait peut-être qu'on envisage de s'organiser différemment. Et franchement, ça a été un moment assez génial, quoi. Gérard a été excellent et l'équipe surtout a été excellente, quoi. Je veux dire, en deux fois trois jours, on a réorganisé le business model de la boîte et les gens ont dit, bah voilà, moi je me projette ou moi je me projette pas. Et on était tous hyper engagés et ceux qui se projetaient pas disaient, bah voilà, moi voilà mon rôle dans le cadre de la transition. Et puis les autres disaient, bah moi voilà mon rôle. Voilà. Et puis finalement, donc on s'est engagé dans cette réimplantation, quoi, dans l'implantation de la boîte en France. C'est même pas une réimplantation, c'est l'implantation de la boîte en France. Et on était en pleine installation de la boîte quand le Covid est arrivé, quoi. Donc si tu veux, on était encore une grosse trentaine en Inde. On devait passer doucement à 12 d'ici la fin 2020. On était déjà 13 à peu près à Lyon et on devait passer à 15, je crois même 18 à un moment sur fin 2020. Et le Covid arrive et là on était complètement cuit parce qu'on a dû gérer en parallèle la crise du Covid. Du jour au lendemain, tu passes à zéro chiffre d'affaires. Et tu vois, pourtant, moi, j'ai vu les débuts, on est parti de zéro. Donc, mais c'est pas pareil de partir de zéro quand t'as besoin de rien et que t'as pas de salaire à payer que d'être, tu vois, on était sur un rythme, on devait faire plus de 5 millions d'euros de chiffres en 2020 facilement. Et du jour au lendemain, zéro. Et donc, au début, on a gardé nos équipes indiennes. Après, on les a mis à mi-temps. Après, on a dû accélérer les départs. Et finalement, on est allé plus loin que ce qu'on pensait dans le modèle français, entre guillemets, où on a même tout ce qui était notre équipe mécanique, etc. On leur a proposé de devenir freelance. On les a essayé de les accompagner comme on pouvait, etc., pour qu'ils trouvent d'autres jobs en Inde de manière provisoire. Et d'ailleurs, ça, c'est plutôt une satisfaction dans la gestion de la crise, c'est qu'aujourd'hui, ils répondent tous présents pour reprendre l'aventure avec nous, alors que ça repart. Nos mécanos sont là, nos guides sont là, et on repart de plus belle. Et l'équipe française, là, ça a été difficile parce que finalement, au lieu de passer de 13 à 15 ou 18, on est passé de 13 à 6. Il y a eu des départs plus vite que prévu et donc on a dû gérer des transmissions de connaissances un peu accélérées en parallèle de la gestion de la crise. Donc ouais, ça a été sportif cette partie-là.
Les clients qui ont déjà réservé avec toi, tu les rembourses, tu leur proposes de reporter leur voyage?
Alors écoute, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a proposé à tous des reports. Pour nous, pour moi en tant qu'entrepreneur, c'était très difficile à prendre comme décision. Moi, je dis toujours, je suis entrepreneur protestant, c'est-à-dire que je gère ça vraiment comme mon père de famille, et j'ai jamais dépensé en fait les avances que nous payent les riders pour réserver leur voyage. Alors en soi, l'idée c'est de se rassurer quand même parce que nous derrière on va payer nos prestataires, etc., faire des avances chez nos partenaires, mais on l'a toujours fait sur la trésorerie de la boîte et pas sur les avances riders. Donc en fait, on avait la totalité de la trésorerie pour rembourser les gens. Et là, il y a le gouvernement qui passe une loi disant les agents de voyage ont vraiment le droit, on les encourage à ne pas rembourser, à faire des avoirs. Et en fait, je me suis dit, voilà, la réalité, c'est qu'on ne sait pas où ça va. Il y a une loi qui vient de passer. L'argent, il est là. Je sais qu'il y a l'argent de mes riders qui sont là. Je vais pas je vais pas le consommer. On a pris le PGE maximal, donc on était hyper hyper safe en trésor. Et on a décidé de faire des avoirs. Voilà. Et donc après, au cas par cas, au fur et à mesure, tu vois, de l'évolution de la crise, il y en a qu'on a quand même remboursé au fur et à mesure. Et puis il y a surtout une grande majorité des gens qui ont utilisé leur avoir pour voyager avec nous.
Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit que t'allais mettre la clé sous la porte ou t'étais assez serein que t'allais pouvoir traverser la crise?
Alors j'étais pas du tout serein, pour être franc. Notamment sur le printemps 2020, ça a été très intense. Je pense que humainement c'était intense. Moi, il y avait une forme de culpabilité aussi du fait que c'était les managers sur place en Inde qui géraient le gros de la crise sur l'Inde, où finalement on a dû laisser partir des gens, etc. Et donc ça, c'était vachement dur à gérer d'un point de vue humain. Et je leur suis vraiment reconnaissant de tout ce qu'ils ont fait. Franchement, ils ont été incroyables. Ouais, c'était vraiment compliqué, quoi, de gérer comme ça une fermeture de filiale, tu vois, ça te tombe dessus, c'était costaud. Et en même temps, on devait repositionner le business model, donc on a mouliné à fond. Et moi, j'étais plus sur cette partie-là, sur comment relancer des produits plus français. Ça faisait un moment que je voulais lancer une académie en France. Et du coup, on a profité du Covid pour la lancer. Et aujourd'hui, c'est un franc succès. Donc ça, c'est cool, quoi. Ça fait vraiment plaisir. On a quasiment 10% de nos riders qui voyagent avec nous sur notre académie. Ce qui n'était pas une évidence, quoi. C'est-à-dire, quand ton métier, c'est de faire du voyage au bout du monde.
Oui, donc tu ne tournes pas les pouces en attendant que les frontières rouvrent. Alors, tu cherches d'autres relais de croissance.
Après ça, il y avait deux écoles hein, dans cette crise. Voilà, moi j'ai vu. Hein, et d'ailleurs, peut-être ceux qui s'en sont le mieux sortis financièrement, ils ont fermé les écoutilles à fond et géré les sous en attendant que ça reparte et resté sur un métier. Moi, je suis pas câblé comme ça. Je suis pas capable de faire ça. C'est pas, je suis pas un gestionnaire, je suis un développeur. Et donc moi, c'est l'inverse, quoi. J'avais les écoutilles à fond ouvertes. J'ai essayé de développer, donc, déjà la France, l'Europe, des nouvelles destinations, pour anticiper un maximum de choses. Et heureusement, parce qu'en 2022, on a réalisé que 50% des voyages qu'on a opérés, c'était sur des destis qu'on n'avait jamais opérés avant le Covid. Ou avant 2020, quoi. Tu vois. Donc,
notamment la France.
Notamment la France, le Maroc, il était dans les tuyaux, mais on n'avait pas encore opéré. Le Rwanda, bon, on avait fait un tour juste avant le Covid en 2020. Après, le Pérou, ça, on l'opérait déjà depuis un an, mais c'est devenu une bonne destination derrière, mais ça restait quand même récent. L'Argentine, on l'avait pas encore lancé. La Tanzanie, on l'avait pas encore lancé. Et donc, en fait, finalement, aujourd'hui, quand je regarde le business, heureusement que j'étais dans cette dynamique de développement. Mais oui, mais du coup, ça n'a pas du tout été serein. Je dirais pas que c'était le bon terme. Par contre, j'ai jamais, je pense pas avoir eu l'inquiétude profonde que la boîte s'arrête, en fait. Mais parce que les fondamentaux business étaient très sains. La première année, nous, on a perdu 400 000 euros en 2020. Contrairement à ce qui se dit, quoi, sur 2021, il y a eu énormément d'aides. Sur 2020, pour les boîtes qui faisaient plus de 2 millions d'euros, dans le voyage, il n'y avait pas tant d'aides que ça. Parce que nous, on pouvait pas profiter à plein du chômage partiel parce qu'on était en réorganisation. Il fallait bien que les gens bossent un peu. Et ensuite, des vraies subventions, il y en a eu quand, pour les boîtes de plus de 2 millions, il y en a eu qu'en décembre 2020. Donc tout le reste de l'année, c'était de la perte. Donc tout ce qu'on dépensait en Inde, c'était de la perte. Donc ça, bon voilà, on a une filiale à l'étranger. Et puis quand les gens fallait les faire bosser pour annuler les voyages, pour justement négocier les avoirs avec les riders, pour replanifier des voyages et puis réannuler des voyages. Donc on a eu beaucoup de frais. Et en fait, cet argent, c'était les réserves de l'entreprise. Donc si tu veux, je suis resté assez serein. On a pris plus d'un million d'euros de PGE, on n'y a pas touché. On n'a pas touché aux avances de nos riders, on n'a pas touché au PGE. On a dépensé les réserves, voilà, et les réserves, elles sont aussi là pour ça. Hein. Donc j'étais pas inquiet sur l'avenir de la boîte. Par contre, c'était difficile humainement pour moi et pour mon équipe, évidemment. On a beaucoup travaillé et ça, c'était intense.
Ok. Aujourd'hui, toutes les frontières ont rouvert.
Ouais, aujourd'hui, toutes les frontières sont ouvertes.
Et l'activité de Vintage Rides, elle ressemble à l'activité avant Covid. Ça a beaucoup bougé.
Ça a beaucoup bougé. 2022. 2019 déjà, donc avant Covid, on fait en gros 4 millions 8 de ventes. En 2022, on en fait 4 millions, j'arrondis. Donc il y a quand même, tu vois, un différentiel marqué.
Mais t'as quand même réussi à retrouver un niveau quasiment avant Covid.
On est à 20% plus bas, mais tu vois, on a quand même un bon retour des choses. Par contre, notre destin historique qui était l'Inde, où on faisait un bon 50% du business, là sur 2022, c'était 30%. Donc en fait, heureusement qu'on a continué à développer plein de destinations et qu'on est resté dans cette dynamique, parce que je pense que l'Inde a pas mal souffert à un moment on a parlé de variant indien, etc. Ça a un peu terni son image. Et puis surtout, je pense qu'après le Covid, les gens ont plus de facilité à se projeter sur des destinations rassurantes que des destinations aventures. Et l'Inde a toujours été une destination perçue comme aventure, et à juste titre. Soit c'est des aventures incroyables. Il n'y a pas plus de risque d'aller en Inde que d'aller dans d'autres pays qui peuvent paraître plus rassurants. Mais bon, je veux dire par rapport au Covid. Mais oui, traverser l'Himalaya, c'est pas faire la 66, quoi. Donc il y a eu un impact sur ce pays. Bon, aujourd'hui, l'Inde repart à fond là. Donc ça c'est une super nouvelle. Mais oui, ça a quand même changé. Donc on est en train de retrouver notre volume. Et 2023, on espère faire plus que 2019, que ce soit en nombre de voyageurs ou en nombre de en chiffre d'affaires, en vente. Donc voilà, on bosse pour ça sur 2023 là.
Et c'est quoi la suite du développement du Vintage Rides, de nouvelles destinations?
Alors nous, on va continuer à ouvrir deux nouvelles destinations par an. Ça, c'est quelque chose qui est, voilà, c'est notre rythme de croisière. Ça se fait bien, c'est intégré, puis c'est un plaisir aussi. Hein, faut se le dire. C'est un plaisir aussi pour certains de nos riders fidèles qui attendent ces ouvertures avec impatience.
T'arrives à faire encore quelques voyages, toi?
Ouais, j'arrive. Alors j'essaye d'en faire au moins un par an. C'est sûr que c'est pas évident avec tout le boulot au bureau, la vie de famille aussi, et puis c'est ces déplacements. Mais oui, j'arrive. Donc l'année dernière, j'étais en Argentine et au Pérou. Cette année, je vais partir au moins au Vietnam. Il y a l'Inde qui me manque aussi. Donc on va voir quand est-ce que je vais pouvoir y remettre mes pieds et mes roues. Donc deux destinations par an. Et le next step, c'est vraiment de reprendre de manière forte le développement des marchés internationaux, donc marché anglais, mais aussi marché allemand, marché américain. Aujourd'hui, Vintage, c'est une toute petite boîte, hein, puisqu'on parle de quelques millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais dans notre milieu, si tu veux, du voyage à moto, on est une des plus grosses agences, si ce n'est la plus grosse agence, à être dédiée à une seule marque de moto qui est la Royal Enfield. Et du coup, fort de ça, on a créé un partenariat fort avec le siège de Royal Enfield en Inde qui va accompagner notre développement sur le marché anglais, allemand et américain. Donc, il va cofinancer certaines productions de contenu et nous ouvrir un petit peu les portes de leur filiale pour qu'on puisse aller faire des apéros dans les concessionnaires, etc., etc. Donc ça va dans le bon sens de voilà, développer les marchés internationaux.
Super. On arrive vers la fin de ce podcast. Pour finir, peut-être ton plus beau voyage ou ton plus beau souvenir de voyage.
Bah, écoute, il y en a plein, mais là, celui qui me vient à l'esprit, c'était quelle année? Je vais pas te dire de bêtises. Je pense que c'était 2017. Où on est parti, sur un lac gelé dans le nord de la Mongolie avec Thomas Guasque, Sylvain Tesson, Clément Gargoulot, donc une fine équipe avec Baptiste aussi, notre guide. Et on a roulé, donc voilà, sur un lac gelé en sidecar, avec ses copains de voyage. Et ça, c'était assez incroyable. C'est des sensations, que je compare d'une certaine manière à la plongée. Alors, ça n'a rien à voir, mais tu changes complètement d'univers, quoi. C'est-à-dire que rouler sur terre, c'est quelque chose, mais rouler sur glace, c'est hyper, hyper marquant. Et voilà, c'est ce qui me vient à l'esprit. En tout cas, d'un point de vue esthétique, c'est peut-être la plus belle chose que j'ai vue, ouais.
Vous en avez fait un film, il me semble, de ce voyage. On peut le regarder quelque part.
Alors, en tout cas, la version courte de 5 minutes, qui s'appelle La Voie des Glaces, Frozen Ride, est disponible sur la chaîne YouTube de Vintage Rides. Et ça donne une très bonne idée de la poésie des moments qu'on a vécu là-bas.
Trop bien. Bah, je vous encourage à aller voir ça, c'est absolument génial. Merci beaucoup, Alex.
Bah, merci, Johan. C'était sympa d'échanger avec toi.
Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Merci de le partager autour de vous et de nous mettre une note de 5 étoiles avec un joli commentaire. Ça va énormément nous aider à faire connaître le podcast. Aussi, si vous avez des besoins en accompagnement sur vos projets innovants, n'hésitez pas à contacter Start the Fuck Up, on saura s'occuper de vous. Il suffit de nous écrire sur contact@stfu.pro. Au nom de toute l'équipe, je vous dis à très bientôt.